VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 25 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, poursuite hier des violences politiques et l'opposition dénonce une tentative d'assassinat de son chef.
Au Burkina Faso, couvre-feu nocturne à Djibo après une attaque contre la gendarmerie de cette grande ville du Nord.
Au Libéria, gratuité pour le premier cycle universitaire, a décidé hier le président George Weah.
Ici aux États-Unis, colis explosifs envoyés à des figures politiques démocrates et à d'anciens hauts responsables anti-Trump ainsi qu'à la chaîne CNN.
Le génocide des Rohingyas en Birmanie continue, avertit un enquêteur de l'ONU.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Guinée, les violences politiques se sont poursuivies hier dans les villes de Dalaba et de Labé, dans le centre du pays. Des manifestations qui font suite à la mort d'un jeune à Conakry et aussi à une accusation de tentative d'assassinat du chef de l'opposition, Abdourahmane Dia.
Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté dans ces deux grandes villes du centre. À Labé, fief de l'opposition, des militants ont réclamé toute la vérité sur la présumée tentative d'assassinat visant l'opposant Sélou d'Alain Diallo et sur la mort d'un jeune. Il a été tué lors d'une manifestation mardi à Conakry pour dénoncer ce que l'opposition appelle un non-respect de l'accord politique sur l'installation d'élus locaux. À Dalaba, des barricades ont été dressées, de jeunes manifestants ont attaqué les symboles de l'État et brûlé des pneus. Le convoi du chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée a été bloqué par les forces de l'ordre alors qu'il se rendait à la manifestation interdite. Sélou d'Alain Diallo dit que son véhicule a été visé. « On a voulu m'assassiner », affirme M. Diallo, accusant le président Alpha Condé. La police de Conakry a affirmé que les forces de sécurité condamnent et rejettent ces accusations et demandent à l'opposition de prouver ces allégations. Le procureur général de Conakry, Mamadi Diawara, a annoncé hier l'ouverture d'une enquête.
Au Burkina Faso, un couvre-feu a été décrété jusqu'à nouvel ordre de 20h à 6h du matin à Djibo, après une attaque contre la gendarmerie de la deuxième grande ville du Nord et chef-lieu de la province du Soum, a annoncé le haut-commissaire Siaka Barrow. Le 18 octobre, des individus armés avaient attaqué la brigade territoriale de gendarmerie de Djibo, faisant un blessé et d'importants dégâts matériels. Les assaillants avaient également libéré plusieurs dizaines de personnes gardées à vue. Selon plusieurs témoins sur place, la population vit dans la psychose depuis cette première attaque dans la ville de Djibo, qui abrite un groupement des forces antiterroristes.
La coalition Jamais to Justice a tenu hier une conférence de presse à Dakar, lancée l'année dernière par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, gambiennes et internationales. Cette coalition réclame le jugement de Yahya Jammeh et de ses complices. Elle appelle également à l'ouverture de poursuites contre l'ancien dictateur gambien et ceux qui portent la plus grande responsabilité dans les crimes commis en Gambie. Reed Brody de Human Rights Watch revient sur l'importance d'un procès contre Yahya Jammeh.
Les victimes gambiennes ont été inspirées par les exploits des victimes de Istanabré qui avaient trouvé justice ici au Sénégal. Dans le cas des massacres de migrants commis par Yahya Jammeh, les victimes ghanéennes et gambiennes ont décidé de saisir en priorité la justice du Ghana, car le Ghana a perdu 44 de ses citoyens et le Ghana n'est pas impliqué dans la politique gambienne comme l'est le Sénégal. Yahya Jammeh, il est accusé non seulement de ce massacre des migrants, il a abattu des journalistes, il a fait tirer sur des manifestants pacifiques, il a obligé des séropositives à suivre un traitement bidon contre le sida. Il a fait des littérales chasses aux sorcières. Il y a des milliers de victimes en Gambie qui demandent justice.
C'était Reed Brody, conseiller juridique et porte-parole de Human Rights Watch.
Au Libéria, le président George Weah a déclaré libre de droit d'inscription l'ensemble des universités publiques de ce pays, d'Afrique de l'Ouest, pour les étudiants du premier cycle. C'était hier lors d'une cérémonie sur le principal campus de l'université du Libéria à Monrovia. Précision d'Irénée Herman Kumbo.
Sur quelques 20 000 étudiants ayant fait les démarches pour s'inscrire, seuls 12 000 assistent aux cours, dont 5 000 grâce à des bourses. Les 8 000 autres ne peuvent pas suivre les cours en raison de leur manque de moyens financiers ou d'aide. C'est donc face à l'incapacité des jeunes à poursuivre leurs études que le président libérien George Weah a déclaré libre de droit d'inscription l'université du Libéria et toutes les autres universités publiques du pays, notamment pour les étudiants du premier cycle. Selon l'ancienne gloire du football, l'incapacité des jeunes à s'instruire a un impact négatif sur leur habileté à participer au développement du pays. Au pouvoir, depuis janvier, l'ancien attaquant du PSG et du Milan AC a expliqué avoir pris cette décision après avoir été alerté par les dirigeants de l'université sur les difficultés rencontrées par les étudiants, notamment en raison de la chute du dollar libérien face au dollar américain, les deux monnaies légales du pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Ici aux États-Unis, la police a intercepté des colis suspects contenant des engins explosifs potentiels adressés à plusieurs personnalités démocrates, à d'ex-hauts fonctionnaires américains et à la chaîne CNN, essentiellement à des détracteurs du président Donald Trump. Ce dernier a dénoncé ces actes promettant que justice sera rendue. Eric Manirakiza.
Dans des moments comme celui-ci, nous devons nous rassembler, a déclaré le président américain. Les actes et les menaces de violence politique n'ont pas leur place aux États-Unis. Sarah Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche, a dit auparavant que ces actes terrifiants sont ignobles et que leurs responsables devront répondre de leurs actes devant la justice. Mitch McConnell, chef républicain du Sénat, a dénoncé des actes de terrorisme intérieur en remerciant les forces de l'ordre qui protègent les personnalités publiques face à de tels actes inadmissibles. Les chefs démocrates au Congrès ont accusé Donald Trump de cautionner la violence physique et de diviser les Américains avec ses mots et ses actes dans ses rassemblements. Ces colis suspects, potentiellement explosifs, visaient l'ancien président Barack Obama, la démocrate Hillary Clinton, l'élu au Congrès et ex-présidente du Comité national du Parti démocrate, Debbie Wasserman Schultz, la parlementaire démocrate Maxine Waters, Eric Holder, ex-ministre de la Justice sous l'administration Obama, John Brennan, ex-directeur de la CIA sous Obama et le siège de la chaîne CNN. Deux jours auparavant, une bombe artisanale a été retrouvée chez le financier George Soros, autre démocrate. Aucun des colis n'est parvenu à ses destinataires, dont la vie n'a pas été mise en danger, et jusqu'ici, personne n'a revendiqué. Ces colis suspects surviennent en pleine campagne pour les élections de mi-mandat du 6 novembre.
Et ajoutons que le président Trump a de nouveau condamné hier soir l'envoi de ces colis explosifs, soulignant que cibler ainsi d'actuels et anciens hauts responsables gouvernementaux, ainsi que tout acte ou menace de violence politique, constitue une attaque contre notre démocratie elle-même. Intervenant dans un meeting de campagne dans le Wisconsin, M. Trump a également appelé les médias à cesser les hostilités et il a dit souhaiter que toutes les parties se parlent dans la paix et l'harmonie. Mais le président Trump a aussi ajouté que les médias se devaient d'utiliser un ton courtois et de cesser les hostilités sans fin.
Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a qualifié hier d'incident hideux le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Sa première réaction publique à cette affaire qui a suscité un tollé. Le point avec Ekia Badou.
L'incident est très douloureux pour tous les Saoudiens. C'est un incident hideux et totalement injustifiable, a dit le prince Mohammed Ben Salman, 33 ans, dans sa première intervention publique depuis le meurtre de Jamal Khashoggi. S'exprimant devant un forum international d'investissement à Riyad, il a également affirmé que la justice prévaudra et qu'il n'y aurait pas de rupture de relations avec la Turquie. Il a eu mercredi son premier entretien téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Jamal Khashoggi a été tué au consulat saoudien à Istanbul où il s'était rendu le 2 octobre. Après avoir nié sa mort, Riyad a reconnu par la suite que le meurtre a été commis lors d'une opération non autorisée. Les autorités saoudiennes ont annoncé des arrestations et des limogeages au sein des services de renseignement. Les États-Unis ont révoqué les visas de 21 Saoudiens suspects. La Grande-Bretagne leur a emboîté le pas. Proche allié de Riyad, le président Donald Trump a estimé mardi que l'opération de dissimulation saoudienne, l'une des pires de l'histoire, a été un fiasco total. Le corps de Khashoggi n'a toujours pas été retrouvé.
Le génocide des Rohingyas en Birmanie continue, a souligné hier Marzuki Darusman, président de la mission d'établissement des faits de l'ONU sur la Birmanie. Il a tenu ses propos avant de présenter un rapport au Conseil de sécurité lors d'une réunion voulue par les Occidentaux contre l'avis de la Chine et de la Russie. L'enquêteur onusien a précisé qu'à l'exception des tueries, toutes les autres caractéristiques de ce crime de masse, ostraciser et discriminer une population, empêcher des naissances, enfermer une population dans des camps, étaient toujours bien présentes. Le gouvernement birman a déjà rejeté de telles conclusions. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manera Kiza.
La production de pétrole en Côte d'Ivoire a baissé de 19% en 2017. Le porte-parole du gouvernement Sidi Touré a indiqué que la production moyenne du brut au 31 mars 2018 s'élève à 31 915 barils par jour. Entre juin 2015 et juin 2016, le pays avait atteint 45 000 barils par jour avec la mise en exploitation de nouveaux champs. Le groupe français Suez, qui assure provisoirement la distribution de l'eau au Sénégal, est bien apprécié. Les autorités sénégalaises disent que c'est économiquement plus avantageux que l'offre de ses deux concurrents. Suez va fournir pendant 15 ans de l'eau dans les zones urbaines et périurbaines au Sénégal, aux dépens de la Sénégalaise des eaux FTE, opérateur depuis 1996, et de Veolia CGE. La concession de la FTE prend fin en décembre prochain. Le Maroc veut consacrer environ 10 milliards de dollars au secteur de l'éducation et de la santé l'année prochaine. Le ministre des Finances et de l'Économie a déclaré que Rabat envisage la construction de 137 nouveaux établissements scolaires. Devant le Parlement, il a aussi présenté la création de 25 458 postes budgétaires. 200 seront réservés aux personnes en situation de handicap, en plus de 15 000 postes contractuels dans le secteur de l'enseignement pour remédier aux problèmes de surcharge des classes.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Ngoyi Emomo a envoyé l'AS Vita Club en finale Coupe de la Confédération.
L'AS Vita Club n'a laissé aucune chance à Al Masry, battu 4 buts à 0 en demi-finale retour à Kinshasa. Le héros d'un soir se nomme, vous l'avez dit, Eddy Ngoyi Emomo. Dès la 5e minute, le milieu de terrain a ouvert le score avant de revenir à la charge à la 34e pour son doublé. Jean-Marc Moudele Makoussou a profité d'un mauvais alignement de la défense pour inscrire le 3e but des Dauphins Noirs à la 75e, son 10e but dans le tournoi. Dans le temps additionnel, Moukoko Batezadio a parachevé le festival but pour le 4-0. En finale, V Club sera opposé au Raja Casablanca, déjà battu à l'aller 1-0, et Nimba n'est pas arrivé à renverser la vapeur hier en demi-finale au retour. C'est encore le Raja Athletic Club qui s'est imposé 2-1 à Casablanca.
Ligue des champions hier en Europe.
Malmené par Naples au Parc des Princes, le PSG a arraché le point du nul. Une mauvaise opération pour le club parisien, désormais troisième de la poule C, à un point derrière Naples et à deux longueurs de Liverpool, leader avec 6 points après avoir écrasé l'étoile rouge Belgrade 4-0. L'Atlético Madrid et Antoine Griezmann ont été humiliés 4-0 aussi à Dortmund et voient les Allemands compter 3 points de plus en tête du groupe A. Tottenham a été accroché par le PSG en Deauville 2-2. 2-0 pour le FC Barcelone devant l'Inter Milan.
De grosses affiches en Europa League ce jeudi.
Arsenal inarrêtable va défier un Sporting Portugal invaincu en Ligue Europa lors de la 3e journée de la petite Coupe d'Europe. Les Gunners d'Unai Emery ont remporté leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. De son côté, l'AC Milan reçoit le Betis Séville. L'Olympique de Marseille joue sa survie contre la Lazio Rome. Et pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Los Angeles Lakers a enregistré hier sa première victoire de la saison avec LeBron James en battant Phoenix 131 à 113. Cleveland battu par Brooklyn Nets 102 à 86. New York Knicks succombe à Miami 110 à 87. Toronto reste invincible en ce début de saison en battant Minnesota 112 à 105. Chicago bat Charlotte 112 à 110. Houston battu par Utah 100 à 89. Indiana bat San Antonio 116 à 96. Et Sacramento bat Memphis 97 à 92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'opposition est divisée au sujet d'une marche prévue vendredi. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, se tient à l'écart et appelle à aller aux élections avec ou sans la machine à voter contestée. Mais les autres ne sont pas d'accord et veulent justement manifester contre la machine en question et les 25% d'électeurs sans empreinte digitale. L'opposition n'a toujours pas désigné un candidat commun pour la présidentielle à 2 mois de la date du 23 décembre prévue pour le scrutin. Eddy Issango a joint à Kinshasa le secrétaire général adjoint du Mouvement pour la libération du Congo, le MLC, Fidel Babala.
Nous avons eu deux correspondances coup sur coup, nous indiquant que l'autorité urbaine avait pris acte de notre intention de pouvoir organiser une marche pacifique. Et c'est conforme à la Constitution. Je ne pense pas que même s'ils sont habitués à violer la Constitution, je crois qu'ils devraient être conséquents.
Et pourquoi organisez-vous cette marche?
Pour protester contre l'utilisation illégale de la machine à voter et appeler à l'attention de la communauté nationale et internationale l'existence d'un fichier corrompu avec plus ou moins 25% du corps électoral.
La marche ne sonne-t-elle pas une rupture au sein de l'opposition alors qu'il y a un mois, vous avez en quelque sorte signé un pacte d'unité?
Nous ne posons pas de préalable. Notre intention est d'aller aux élections, mais des élections propres. La position prise par l'UDPS, je leur laisse la paternité de leur position. Nous, en tant que collectif de l'opposition, moins l'UDPS, nous allons continuer le combat et démontrer notre détermination à aller à des élections propres, pas à une parodie d'élection.
Mais de l'autre part, le président de la CENI a déjà décidé d'aller aux élections avec cette machine.
Jusqu'à preuve du contraire, la machine à voter, on ne peut pas considérer que la RDC devienne un vaste champ d'expérimentation pour la machine à voter, compte tenu de la configuration actuelle sociologique et au niveau de l'éducation de notre population. On ne peut pas prendre ces risques. Il s'agit de pouvoir capter la volonté du souverain primaire qui doit être claire, transparente et crédible.
Et si la CENI ne s'est pliée pas à votre revendication?
Nous avons la détermination de faire en sorte que cette machine soit écartée du processus électoral. Nous ne sommes pas les seuls. La société civile voudrait aussi faire écarter cette machine. Je vous informe qu'il y a une pétition qui est en cours au niveau du comité laïque de coordination et nous appuyons, nous, l'opposition pour que la majorité de notre peuple démontre le rejet de la machine à voter.
Cette marche n'éloigne-t-elle pas la perspective d'un candidat commun de l'opposition que vous promettiez il y a un mois?
Je ne sais pas de quoi vous dites ça, tout simplement parce qu'il y a une plateforme qui a pris une position divergente. Les autres demeurent unis. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de l'unanimisme, mais d'un consensus majoritaire. Les 6 plateformes qui restent vont désigner dans les jours qui viennent leur candidat commun.
Mais nous sommes à moins de 2 mois maintenant des élections de la date du 23 décembre.
Absolument. Et nous sommes organisés pour nous déployer rapidement et faire campagne rapidement. Je vous rappelle que la campagne électorale dans ces pays, c'est 1 mois. Nous avons autant de relais au niveau de toutes les provinces de la République, nous avons des relais.
Au début de la semaine, 2 personnalités de la majorité ont affirmé avoir été l'objet d'attaques. Est-ce que vous ne craignez pas que ces marches débordent et que l'on vous accuse de tous les mots après?
Qui détient la force légale dans ce pays si ce n'est la majorité? Encore faut-il que ce soit vrai.
Fidel Babala, secrétaire général adjoint du MLC, le Mouvement pour la libération du Congo.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Congo-Brazzaville, les populations qui sont revenues de guerre dans le Poule tentent de se donner un nouveau destin. Dans une savane, par exemple, les déplacés de Missié-Missié dans le district de Mindouli ont choisi d'ouvrir 7 km de route. Grâce aux vivres PAM, financés par le gouvernement américain, ces retournés de guerre du Poule veulent rapidement rendre accessible leur bassin de production au marché local. Reportage de notre correspondant Arsène Séverin, qui s'est rendu sur place.
Ce bruit des scies à moteur pour couper les arbres rompt avec le silence lugubre qu'a imposé pendant 2 ans le conflit armé à Missié-Missié dans le district de Mindouli. Ici, les populations qui avaient fui commencent à revenir et il faut organiser une nouvelle vie. Le programme alimentaire mondial, qui a l'habitude de leur fournir de la nourriture, fait une nouvelle offre. Jean-Martin Bauer est le représentant du PAM au Congo.
Les gens sont rémunérés en vivres. Ils reçoivent environ l'équivalent de 360 francs CFA par jour, par personne dans leur ménage, pour travailler sur ce site. Alors ils déblayent, ils désherbent, ils dessouchent. On a élargi le passage ici. Vous voyez, maintenant, ça fait 4 mètres de large. Donc les véhicules peuvent passer là où le passage était impossible avant. Et donc ça désenclave environ 1000 personnes sur cet axe-là. Ça permettra l'évacuation des produits agricoles, l'accès aux hôpitaux, l'accès aux services sociaux. On pense que c'est un grand progrès pour la zone. Mais là où vous voyez ici, il y avait la forêt. Et maintenant, on a ce passage.
Pour Antoinette Ndigandiodo, ministre en charge de l'action humanitaire, c'est important d'être d'accord de ne plus se faire nourrir gratuitement.
Ce que nous faisons maintenant, c'est le relèvement, la réhabilitation des moyens de vie. Et la route est utile pour cette population pour aller de leur lieu de production vers là où ils peuvent vendre. Au lieu de continuer à donner l'assistance alimentaire gratuite, nous leur donnons l'assistance alimentaire contre le travail qu'ils vont faire.
Une logique accepte volontiers Philippe Mabouaka, chef du village Missié-Missié, mais aussi à la tête de la communauté des travailleurs sur cette nouvelle piste agricole.
Vraiment à plus de contour. Et ça va nous servir à faire rentrer les véhicules commerciaux pour que ceux qui sont ici soient bien occupés. Pour les haricots, les gombos, les aubergines, toutes choses qu'on fait à Brazzaville, même européennes, on les fait vraiment. Les maniocs, les arachides, surtout que les haricots, hein, à des gens qui vont à 300 sacs, 400 sacs. Mais donc, il se posait un problème de déplacement. Parce que vous comprenez qu'une femme, quand elle quitte à Mokongoto pour venir à Missié-Missié, il faut qu'elle fasse au moins 5 heures de temps. Mais actuellement, maintenant, c'est une heure que tu es à Missié-Missié. Donc, on est très content.
L'ambassadeur des États-Unis, Todd Haskell, a fait la visite de terrain et sait maintenant comment est utilisé l'argent du contribuable américain dans le pool.
Maintenant, je crois que c'est un très bon projet parce que les membres des communautés, les jeunes, ils travaillent, ils reçoivent de la nourriture, mais aussi, ils ont l'opportunité de faire des choses qui sont bonnes pour la communauté. C'est un projet que tout le monde gagne. C'est gagne-gagne. Et je suis très fier que les États-Unis puissent jouer un rôle avec des membres de la communauté pour faire.
En 2017, les autorités avaient lancé un appel à fonds de 23 millions de dollars pour financer le programme de relèvement précoce. L'argent n'arrive toujours pas et il faut bien commencer avec le peu qui existe. De retour de Missié-Missié dans le pool à Mindouli, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le coordonnateur du groupe de travail de la société civile en République centrafricaine, Gervé Lakosso, est aux États-Unis en compagnie de représentants de 17 pays africains invités à suivre notamment les prochaines élections de novembre. Au micro de Félix Yepassis Zembrou, M. Lakosso discute ici de l'actualité en RCA, notamment de la destitution du président de l'Assemblée nationale.
Notre pays est en train de chercher difficilement à sortir de cette longue crise. C'est un moment où toutes les instances de gouvernance devraient parler d'une même voix, avoir une même vision. Malheureusement, notre Parlement n'est pas dans cette logique. Avant même le lancement de cette procédure de destitution du président de l'Assemblée nationale, les membres du Parlement ont brillé par des anti-comportements qui ne sont pas dignes.
Que pense la société civile de la présence des Russes en Centrafrique en ce moment?
Les Russes en Centrafrique, dans le cadre d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a levé partiellement l'embargo sur les armes en Centrafrique pour leur permettre de livrer 5000 armes aux forces armées centrafricaines et d'emmener des instructeurs pour apprendre aux militaires centrafricains le maniement de ces armes-là. Beaucoup de langues se sont dédiées pour dénoncer que les instructeurs russes qui sont là-bas sont des mercenaires, ce ne sont pas des officiels. Mais en tant que centrafricain, le plus important, c'est qu'ils sont là, ils remplissent leur mandat, ils forment les militaires centrafricains, ils sont redéployés et on voit que là où on envoie nos militaires, ils se comportent bien et ça ramène la paix. Maintenant, nous, en tant qu'observateurs de la vie nationale, nous demandons au gouvernement de mettre la forme sur cette relation avec la Russie parce que la démarche constitutionnelle n'a pas été totalement suivie. Et nous demandons que cela passe par l'Assemblée nationale qui autorise le gouvernement et qu'un accord de coopération digne en ce nom soit signé entre notre pays et la Russie, parce que nous sommes un pays en crise, nous sommes en droit de multiplier les relations pour chercher des voies et moyens pour sortir de cette crise-là.
La société civile sera-t-elle partie prenante au dialogue initié par le panel de l'Union africaine entre le gouvernement et les groupes armés ?
Nous pensons que nous ne pouvons pas aller à ce dialogue simplement comme observateur, tout simplement parce que le pays n'est pas constitué que du gouvernement et des groupes armés. Il y a toutes les entités du pays. S'il y a une crise, pour résoudre cette crise-là, tout le monde doit être là. Si chacun jouait son rôle comme il se doit, on ne devait pas être dans cette situation-là. Et puis, on est un peu fatigué de cette démarche de la communauté internationale ou de groupes d'experts qui pensent que c'est eux qui connaissent mieux la crise centrafricaine que les Centrafricains imaginent des solutions et pensent que voilà, c'est la réponse à votre crise. Et chaque fois, ça nous amène toujours devant un mur.
Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile en Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République Centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Malgré la reconnaissance par l'Arabie Saoudite de la mort du journaliste Jamal Khashoggi dans les locaux de son consulat à Istanbul et l'arrestation de 18 personnes, l'affaire est loin de connaître son épilogue. Hier, Ankara a demandé que les personnes incriminées soient jugées en Turquie. Sur le rôle joué par ce pays dans l'internationalisation de cette affaire, Abdurrahman Dia a joint à Paris le professeur turc à la retraite Ahmed İnsel.
La Turquie aurait pu être très très intransigeante dès le départ. Et je crois que Tayyip Erdogan a voulu à la fois ne pas du tout couvrir cette affaire, mais en même temps laisser une marge de négociation avec l'Arabie Saoudite. Du coup, il joue la carte d'une révélation goutte par goutte, compte à compte, de ce que dispose la police turque comme information.
La Turquie veut quand même que les personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête soient jugées en Turquie. Vous pensez que Riyad va l'accepter ?
Non, pas du tout. Je crois que c'est un vœu pieux. D'ailleurs, je suis sûr que si jamais Riyad décidait d'envoyer les personnes incriminées, la Turquie aurait été encore plus gênée. Là, c'est une demande qui est faite par pure forme, tout en sachant que ça ne va pas aboutir.
Quels sont les moyens de pression dont dispose Ankara ? Après tout, l'Arabie Saoudite est très puissante dans le monde musulman et également sur le plan financier.
La Turquie, aujourd'hui, joue sur la crédibilité de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, cette stratégie de la Turquie a poussé l'Arabie Saoudite à reconnaître les faits, puisque, rappelez-vous, les premiers jours, l'Arabie Saoudite avait totalement nié et avait même annoncé que Khashoggi était sorti libre du bâtiment. Mais la Turquie a poussé, en révélant progressivement des faits, a poussé les pays occidentaux à prendre une position beaucoup plus exigeante vis-à-vis de l'Arabie Saoudite.
Et justement, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont décidé du retrait de visa des personnes incriminées. Quel impact cette mesure de retrait des visas peut avoir face aux intérêts financiers ?
Aucun. Le retrait de visa n'a aucun impact puisque nous savons que maintenant ces 18 personnes ne quitteront jamais l'Arabie Saoudite parce qu'ils risquent d'être arrêtés n'importe où. Mais par contre, par exemple, le retrait des participations au forum organisé à l'Arabie Saoudite a eu des impacts, manifestement. La décision allemande de refuser les livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite probablement va créer une pression d'opinion publique qui fait que les livraisons d'armes vers l'Arabie Saoudite vont être plus difficiles. Et je crois que tous les pays en question dans les pays occidentaux réfléchiront encore plus aujourd'hui.
Joint à Paris, Ahmed İnsel, professeur à la retraite de l'université de Galatasaray en Turquie. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedouvia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.